Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour, vous écoutez France Culture et c'est maintenant et jusqu'à 9h le service protestant. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le pasteur Thierry André, chargé du lien fédératif au sein de la Fédération protestante de France. Avant de vous écouter, pasteur Thierry André, nous partager une réflexion autour de textes bibliques que vous avez choisis, j'aimerais vous poser quelques questions afin que nous puissions comprendre votre mission à la Fédération protestante de France. Ce titre, développement territorial du lien fédératif, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ?
Bonjour Jean-Luc. En fait, développement territorial du lien fédératif, ça veut dire que la Fédération protestante de France rassemble un ensemble d'unions d'églises, d'institutions, d'œuvres, de mouvements qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français. Mmh. Alors le siège de la Fédération protestante se trouve à Paris, mais il y a un ensemble de représentations de la Fédération protestante sur l'ensemble du territoire. Donc ma mission consiste à visiter dans un premier temps pour essayer de comprendre les différentes données, les différentes constitutions de cette fédération protestante sur l'ensemble du territoire, puis ensuite d'encourager vraiment un programme de développement de ce lien entre les différentes composantes de la fédération protestante sur l'ensemble du territoire.
Alors peut-être avant de parler de l'aspect du lien, des relations, la fédération protestante c'est quand même une grosse machine et je pense pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, il y a une sorte de mystère derrière. Qu'est-ce que ça représente vraiment ?
C'est vrai qu'il y a une sorte de grand mystère derrière la Fédération protestante de France.
Derrière ce titre en tout cas.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, la Fédération protestante rassemble une trentaine d'unions d'églises et 80 associations qui sont plutôt orientées dans le service. Et ça veut dire qu'il y a à peu près en tout 500 œuvres chrétiennes qui gravitent autour de la Fédération protestante. Et ça représente en fait à peu près 1 million de protestants en France.
Alors quand vous parlez de services social, d'autres choses
Oui, alors il y a la Fédération de l'entraide protestante, par exemple, qui est une association importante qui rassemble toutes les œuvres sociales. Il y a aussi les Scouts de France, il y a par exemple les Diaconesses de Reuilly. Enfin, toute la diversité du protestantisme est représentée dans cette partie-là.
Les Diaconesses, c'est une communauté de sœurs?
Voilà, c'est ça. C'est le seul ordre protestant que nous avons, donc, et qui fait partie de la Fédération protestante de France.
Et il y a des aumôneries aussi,
oui,
je crois.
Oui, oui. Alors je voulais vous en parler. Il y a différentes aumôneries. Il y a l'aumônerie aux armées, l'aumônerie des hôpitaux, les aumôneries de prison également, et puis les aumôneries d'aéroports à Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly principalement sur le territoire français.
Alors on comprend vite que tout ça, ça représente beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de diversité aussi, puisque le protestantisme a aussi cette particularité d'être très divers dans sa composante, mais aussi donc dans sa forme d'expression. Alors comment arrivez-vous à créer du lien, à mettre en place donc ce réseau? Vous êtes au début de ce ministère-là, donc comment vous y prenez-vous très concrètement?
Alors, c'est vrai que le gros défi de la Fédération protestante, c'est de rassembler des protestants qui vont des luthéraux réformés jusqu'aux évangéliques charismatiques les plus extrêmes parfois. Et c'est un vrai défi que de rassembler l'ensemble de ces protestants, de cette famille protestante avec toute sa diversité. Donc, comment je m'y prends ? Eh bien, dans cette première année de travail, j'ai surtout pris le temps d'écouter les uns et les autres et j'ai pu prendre conscience à quel point il nous faut éviter de tomber dans les stéréotypes tels que les luthéraux réformés sont comme ça ou les évangéliques sont comme ça. Ouais. Au sein même des luthéraux réformés et au sein même des évangéliques, il y a une immense diversité et il faut absolument éviter de tomber dans les stéréotypes. Donc c'est vraiment ce travail d'écoute que je fais personnellement mais aussi que j'encourage dans partout où je vais, pour faire comprendre qu'en fait nous ne sommes pas là les uns contre les autres ou que les uns sont meilleurs que les autres. Nous sommes là pour travailler ensemble parce que nous avons quelque part un ADN commun qui est le fait que nous provenons tous de cette fameuse réforme protestante à laquelle nous sommes attachés.
Et alors la Fédération protestante donc a son siège à Paris, mais en région, comment ça se vit? Il y a des rencontres entre ces communautés, entre les pasteurs, il y a des pôles fédératifs, des choses de ce genre?
Voilà, c'est ça. Alors le siège de la Fédération protestante de France se trouve donc à Paris, à la rue de Clichy, et il y a toute une déclinaison de ces pôles, de la Fédération protestante, pardon, sur le territoire, notamment par le biais de pôles fédératifs. Donc il y a des pôles fédératifs, il y en a actuellement une douzaine, donc une dizaine déjà constituée à Bordeaux par exemple, Toulouse, Marseille, les Alpes-Maritimes, Lyon, la Fédération protestante Île-de-France que je préside également, donc qui est un pôle assez important. Au vu de l'ampleur du territoire. Et puis il y a le pôle Bretagne qui est plus un pôle régional, il y a aussi le pôle Cévennes qui est un pôle plus rural, et puis deux autres pôles sont en train de se remettre en route ou de se constituer, comme à l'île de la Réunion par exemple, et dans le bassin alésien, dans le département du Gard.
Et dans ces régions, donc, ces pôles fédératifs produisent des choses, comment, à quoi ils servent dans la réalité du quotidien?
Voilà, alors du coup, il y a aussi le pôle de Marseille que j'ai oublié, et en visitant l'ensemble de ces pôles, chaque pôle a une diversité qui lui est propre, une particularité qui lui est propre plutôt. Et alors, le but de ces pôles, c'est d'abord la représentativité auprès des autorités séculières du département, de la ville, de la région. C'est aussi travailler dans la proximité pour accompagner tous les aumôniers qui sont présents sur l'ensemble du territoire. C'est aussi établir des liens entre les pasteurs par des rencontres régulières qui ont pour objectif d'apprendre à faire connaissance, de pouvoir aussi travailler sur des projets communs, des célébrations communes ou alors des objectifs par exemple d'évangélisation ou autres. Il y a une très grande diversité sur l'ensemble du territoire et c'est ce qui fait la richesse en fait de la Fédération protestante et de ses pôles fédératifs.
Donc en gros, il n'y a pas d'obligation, un cahier des charges qui obligerait la région à agir de telle ou telle façon, mais c'est plutôt essayer de donner du sens à la Fédération sur le terrain.
Voilà, donc il n'y a pas de cahier des charges précis, il y a des grandes lignes qui sont là, qui sont proposées, et après chaque pôle sur place décline ces grandes lignes avec l'identité qui lui est propre. Par exemple, on ne peut pas obliger le pôle des Cévennes, qui est plus rural, à fonctionner d'une manière urbaine.
Comme la région parisienne.
Voilà, comme la région parisienne. Donc c'est vraiment cette écoute et cette attente des uns et des autres. Mais l'essentiel, c'est de faire vivre ensemble et collaborer et travailler ensemble un ensemble de représentativité locale de la Fédération protestante de France.
Et alors après un an de fonctionnement, c'est cela?
C'est ça.
Qu'est-ce que vous en tirez à titre personnel déjà?
Eh bien, je suis de plus en plus passionné par cette mission parce que je me mets à découvrir vraiment la richesse immense du protestantisme en France et la valeur que chacun apporte et la valeur ajoutée que chacun apporte dans cette grande famille de la Fédération protestante de France.
Alors je retiendrai de ce que vous nous avez dit qu'il est important de sortir des clichés, sortir des a priori qui enferment et plutôt s'ouvrir à la différence aussi.
Oui, c'est ça. Et un point important, c'est pas parce que je m'ouvre à la différence et que je me trouve à collaborer ou à vivre une expérience avec un frère de la même famille qui n'a pas forcément peut-être les mêmes convictions que les miennes, que je fais du compromis. En fait, je ne dilue pas mes propres convictions, je les conserve, j'y suis très attaché de par mes antécédents évangéliques. Mais j'ai appris et j'apprends de plus en plus que le Seigneur se révèle à chacun en fonction aussi de son histoire personnelle, de son arrière-plan religieux, de son vécu, mais que je dois respecter aussi le rythme de révélation que le Seigneur déploie dans nos vies à tous, à vrai dire, parce que nous ne pouvons pas prétendre que nous avons toute la révélation sur l'ensemble des sujets ou sur l'ensemble de la foi.
Puis au-delà du spirituel, j'entends par là aussi qu'il y a quelque part les règles de base du vivre ensemble que l'on peut vivre aussi à l'intérieur de l'Église de cette façon-là.
Oui, c'est ça. J'y reviendrai dans quelques instants à propos de la méditation que je vais apporter. Mais c'est vraiment prendre conscience que nous sommes appelés à vivre une belle aventure. Et je suis plein d'optimisme, en fait, pour ce que nous allons vivre dans les mois et les années qui arrivent au sein de la Fédération protestante de France. Parce que je crois que c'est vraiment un organisme tout à fait unique dans le monde religieux. Et je pense même au-delà de la France, et je le sais. D'autres nations viennent voir et s'interrogent sur la possibilité qu'il y a pour des protestants d'origine très diverse de vivre ensemble. Alors ça les interroge énormément et c'est un ovni peut-être dans le paysage spirituel et religieux dans le monde.
Et vous êtes pasteur, toujours en poste sur une communauté locale ?
Oui, je suis toujours pasteur d'une paroisse donc locale à Cergy-Pontoise. Alors c'est un vrai défi de mener tout cela de front,
oui,
mais
j'imagine.
J'apprends à libérer les énergies et j'apprends aussi à libérer les talents qu'il y a dans la vie des uns et des autres. Et je suis de plus en plus convaincu que le rôle du pasteur, c'est ce travail-là en fait, c'est de libérer les dons et les talents et les énergies que le Seigneur a déposées dans chacun des croyants.
On peut avoir le cumul des mandats dans le protestantisme alors.
Ben, il semblerait, bon, il faut aussi de la sagesse, mais voilà, je suis passionné par ce que je vis et je me réjouis de ce qui se passe en France en tout cas.
Dans le prolongement direct de ce court entretien, je vous propose, pasteur Thierry André, après une respiration musicale, de vous entendre sur ce qui fait battre en quelque sorte votre cœur de pasteur, l'Église et l'unité.
Si l'on devait donner un titre à la méditation que je vais apporter maintenant, ce serait le suivant. L'unité de l'Église, corps de Christ, un rêve inaccessible, une réalité en devenir. En fait, en considérant l'histoire de l'Église depuis ses débuts dans le livre des Actes, puis au fil des siècles, en passant par la Réforme et jusqu'à nos jours, force est de constater que le mot « désaccord » semble prédominer et même avoir imposé sa loi. La prière de Jésus, en Jean 17, dans laquelle il prie le Père pour que nous, chrétiens, nous soyons un, afin que le monde croie, semble a priori loin d'avoir été exaucée et peut même laisser planer le doute sur le fait qu'elle le soit un jour. En particulier pour nous protestants, la multiplicité de nos différentes dénominations, la grande diversité de nos convictions personnelles ou d'Église, nos nombreuses différences théologiques font qu'il peut paraître impossible, même incompréhensible, que tout ce monde arrive à vivre ensemble, ou tente du moins de le faire. Alors, sommes-nous donc condamnés à vivre ensemble un désaccord éternel? Et si nous décidions plutôt de relever le défi que le Seigneur nous propose? C'est-à-dire faire corps, envers et contre tout, en dépit de nos chamailleries internes. Le Nouveau Testament nous propose deux images principales à propos de l'Église. La première de ces images, c'est celle d'une famille. Et je voudrais lire le texte que nous propose l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse au chapitre 2, versets 19 à 22. L'apôtre Paul écrit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des membres du peuple de Dieu et vous appartenez à la famille de Dieu ». Vous êtes, vous aussi, la construction qui s'élève sur les fondations posées par les apôtres et les prophètes. La pierre d'angle en est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et lui permet de grandir pour former un temple saint dans le Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie vous aussi de la construction pour devenir avec tous les autres une maison dans laquelle Dieu habite par son esprit. Cette première image de la famille, donc, évoquée dans ces versets que je viens de lire, souligne la dimension avant tout relationnelle de l'Église. En effet, une famille, c'est cet espace bien particulier dans lequel évoluent différentes personnes, avec des caractères, des convictions, des responsabilités très diverses également. On y trouve par exemple des grands-parents, des parents, des enfants, des cousins, cousines, des oncles, tantes, etc. La taille de ces familles est plus ou moins importante et prend de nos jours des formes très diverses. Mais la composante essentielle en est les relations, qu'elles soient du reste fortes, tendues ou distendues. Il est intéressant de noter que le modèle trinitaire du Dieu de la Bible souligne fortement cette dimension familiale. Après tout, Dieu n'est-il pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ? C'est également au travers du modèle familial que Dieu choisit d'accomplir son plan sur terre. En effet, c'est un premier couple et à leurs enfants que le Seigneur confie une responsabilité, celle de remplir la terre et d'y exercer une autorité. Puis, c'est grâce à une famille spécifique, celle de Noé, que l'humanité est sauvée du déluge. C'est également par un homme, Abraham, et ses descendants après lui, que Dieu se constitue un peuple mis à part. C'est de ce peuple que viendra le Messie, annoncé, Messie qui naîtra et évoluera lui aussi au sein d'une famille terrestre. Au vu de ces éléments, il est donc tout à fait logique que l'Église se construise aussi sur cette dynamique familiale. Nous devons être reconnaissants pour l'honnêteté des Écritures bibliques qui ne cherchent pas à cacher les nombreuses imperfections de cette Église-famille, comme je la nomme, et que le Seigneur Jésus a lui-même établie. Même si dans le livre des Actes des Apôtres, tout démarre très fortement avec un déversement de l'Esprit-Saint, avec une croissance fulgurante, avec des relations très fortes qui s'établissent entre les croyants, très rapidement, il nous est fait part aussi de tensions qui surviennent sur la question de la distribution de repas parmi les croyants, car certains se sentaient lésés sur ce sujet, dans Actes chapitre 6 par exemple. Et puis la plupart des épîtres ou des lettres rédigées par l'apôtre Paul cherchent en fait à corriger ou à régler des problèmes relationnels. Je pense en particulier à l'église qui se trouvait à Corinthe, qui était minée par un esprit de clan, de rivalité et par divers problèmes. Alors oui, aujourd'hui encore, l'Église est cet espace bien particulier, bien vivant, trop peut-être, car il est constitué d'êtres humains très divers, avec leurs caractères spécifiques, qui se retrouvent au sein d'une famille dont l'ADN commun est leur foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le pardon de leurs péchés. Éphésiens 2, dans les versets que je viens de lire, disent que Jésus-Christ lui-même est la pierre d'angle. Et oui, l'Église est imparfaite, à l'image de toutes les familles de la terre et de l'histoire. Mais cela ne l'empêche pas d'être bien présente encore aujourd'hui et de se développer malgré tout.
Thank you.
Sur France Culture, dans le service protestant, nous écoutons le pasteur Thierry André, qui, après avoir développé l'image de l'Église comme famille, nous propose maintenant une autre manière de la considérer, en partant, je crois, d'un texte écrit par l'apôtre Paul.
C'est cela. Et cette deuxième image, c'est celle d'un corps. Et je vais donc lire ces quelques versets de la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12. En chacun, l'Esprit se manifeste par un don pour le bien de tous. En effet, le Christ est comme un seul corps qui possède plusieurs parties. Ce corps reste un, bien qu'il se compose de différentes parties. Et nous tous, les juifs ou les non-juifs, les esclaves ou les hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. Vous tous, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. Cette deuxième image, celle du corps, met en relief la dimension de complémentarité dans la diversité. Unité est donc loin d'être égal à uniformité, c'est ce que ce texte nous dit. S'il y avait uniformité, cela donnerait un caractère monstrueux à l'Église. Paul le dit, si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Alors, j'ai fait il y a quelques années une expérience intéressante au musée d'Orsay. Dans ce musée dédié en grande partie aux peintres impressionnistes, un espace est spécifiquement attribué aux peintres pointillistes, c'est-à-dire cette technique qui consiste à peindre un tableau par petites touches juxtaposées de peinture. Je me trouvais donc devant un tableau peint avec cette technique-là. J'entendais derrière moi plusieurs personnes s'extasier alors que de mon côté je ne trouvais pas que ce tableau soit particulièrement beau. Jusqu'au moment où j'ai compris que ce genre de chef-d'œuvre ne peut être pleinement apprécié que si l'on se met à une distance suffisante. Seul le recul permet d'apprécier toute la beauté de l'ensemble et nous empêche de nous concentrer sur les détails ou les particularités. Pourtant chaque détail est important, voulu par le peintre, et a toute sa place dans l'ensemble. C'est une belle illustration de cette nécessaire complémentarité à laquelle le Seigneur nous invite. L'ensemble de la création de Dieu parle dans le même sens, une très grande diversité dans tous les domaines, et pourtant une complémentarité qui donne un résultat magnifique devant lequel nous nous extasions naturellement. Et puis, le corps humain en est aussi une belle illustration. Une grande diversité d'organes positionnés chacun au bon endroit avec une fonction spécifique mais qui forment tous ensemble un organisme vivant, harmonieux, destiné à se mouvoir et à impacter l'environnement dans lequel il évolue. Il en va de même pour l'Église, corps de Christ. Elle est constituée d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, de langues, de nations différentes, d'origines sociales très diverses, de cultures opposées parfois. Un vrai défi que de faire cohabiter tout ce monde ensemble. Et pourtant, la présence, les dons accordés par le Seigneur à chacun sont importants. Comme tout organisme vivant, l'efficacité est optimale lorsque chaque membre fonctionne conformément à sa spécificité. Cela se complique quand l'un ou l'autre organe est affecté par la maladie ou un traumatisme. En appliquant ces principes plus particulièrement à la grande famille protestante, la diversité des églises, des communautés, des œuvres et des mouvements qui la constituent, plutôt que d'être considérée comme un obstacle ou un problème, devrait être envisagée comme une belle démonstration d'incarnation du modèle biblique, un corps spirituel dont la grande diversité est un puissant moteur pour une action d'influence dans le monde et la société. Après tout, Jésus-Christ n'a-t-il pas dit « C'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde » dans l'Évangile de Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 14. Nous sommes donc invités à nous réjouir de cette diversité, à la célébrer et à apprendre à fonctionner ensemble pour que le règne du Seigneur soit établi. Alors pour conclure, je reviens à la question posée au début de cette méditation. L'unité de l'Église, un rêve inaccessible, une réalité en devenir ? Je propose que nous décidions ensemble, en tant que famille protestante, d'entrer dans une nouvelle façon de penser. C'est-à-dire que nous réformions notre façon de penser et qu'ainsi nous choisissions de croire que nous sommes ensemble au début d'une belle et nouvelle aventure qui contribuera à l'exaucement de la prière d'unité de Jésus en Jean 17. Une unité qui, même si elle nous est de fait accordée par l'Esprit-Saint, est donc encore une réalité en devenir. Il faut en effet que nous décidions de l'incarner de plus en plus. Mais pour cela, il nous faut comprendre la dimension relationnelle qu'implique la notion de famille et prendre la mesure de la complémentarité au sein de la diversité. En effet, dans l'union avec Christ, nous faisons partie, nous aussi, de la construction pour devenir avec tous les autres une maison dans laquelle Dieu habite par son Esprit. C'est ma prière. Amen.
Nous arrivons à la fin de ce service protestant proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Delphine Lemaire, avec à la prise de son Manon Houssin, et aujourd'hui notre invité, le pasteur Thierry André. Pour nous écrire, notez bien l'adresse Service Protestant 47 rue de Clichy, 75 009 Paris, ou bien notre email communication@fédérationprotestante.org. Cette émission est à réécouter sur les sites de franceculture.fr et de protestant@fr.org, où vous pourrez y retrouver aussi la version texte. Et pour le podcast, c'est sur l'application de votre choix sous l'intitulé « Service protestant ». Je vous souhaite une excellente journée avec maintenant les informations sur France Culture, suivie de l'émission talmudique présentée par Marc-Alain Wachnin.